Jacques, pour toutes ces informations. Donc, nous entrons tout de suite dans la deuxième phase de cette conférence de presse. La séance des questions et réponses, veuillez éteindre vos téléphones ou mettez-les sous mode silencieux. Nous commençons tout de suite par Goma aujourd'hui. Goma, vous avez deux questions.
Merci pour l'expression. C'est Darrell Maurice, TV Canal 7 Kill. Monsieur Bassé, il y a d'ici là 6 mois, jour pour jour, que vous avez interrompu la connexion Internet de notre très cher centre William Elati. On voulait avoir une idée. Et pardon, ne nous répondez pas que c'est une raison technique. La deuxième question.
Non, vous avez droit à une question. Vous avez droit à une question.
Merci beaucoup.
Merci. Évidemment, vous posez la question, vous donnez déjà la réponse. Je ne sais pas si je devrais ajouter quelque chose, mais je peux tout simplement vous dire que c'est une préoccupation majeure aussi bien au niveau du bureau de Goma qu'ici à Kinshasa. Pas plus tard qu'hier, nous en avons encore débattu. Mais je voudrais vous dire que c'est une question qui est assez locale. Si vous voulez, réduite à Goma, donc ce n'est pas d'un intérêt général, mais je peux vous dire que nous sommes en train de nous activer à partir de Kinshasa et de Goma pour résoudre de manière définitive ce centre de presse qui, comme vous le savez, a été édifié pour vous. C'est-à-dire, il est à votre service, nous devons donc de restaurer la connexion Internet. Merci, nous restons à Goma pour prendre une deuxième question. Goma, vous avez une deuxième question, s'il vous plaît.
Je suis Charlie Kasareka pour la Voix de l'Amérique. Et nous avons des informations selon lesquelles des clients ou des journaliers ici à la Monisco qui travaillent pour l'entreprise T&D, d'une entreprise ougandaise qui travaille sous traitance de la Monisco, sont maltraités par cette société. Et on aimerait savoir aujourd'hui pourquoi la Monisco traite toujours avec des entreprises étrangères et qui font travailler des Congolais et qui les font souffrir. Est-ce que vous êtes au courant de cette information et qu'est-ce que vous prévoyez faire?
Oui, merci. Donc, je dois tout simplement dire que, premièrement, je ne suis pas au courant de maltraitance subie par le personnel travaillant pour la Monisco au niveau de Goma. Si je comprends bien, vous avez circonscrit votre problème à Goma. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis un certain temps, nous avons initié des échanges fructueux avec le personnel contractant de la Monisco pour trouver une solution aux problèmes qui ont été posés à l'administration. Évidemment, nous l'avons toujours dit et aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans une dynamique de retrait de la République démocratique du Congo en étroite collaboration avec les autorités de ce pays. Et nous sommes en train, bien entendu, avec cette dynamique de retrait, il est évident que beaucoup de postes vont être supprimés. Mais l'administration est en étroite collaboration et en contact étroit avec les responsables des contractants pour trouver une solution qui soit quand même acceptable pour tout le monde. Donc ça, je peux vous dire. Maintenant, concernant une société ougandaise qui maltraiterait les Congolais, je suis au regret de vous dire que je ne suis pas au courant, mais je chercherai cette information pour vous. Donc retour tout de suite ici à Kinshasa. Nous allons prendre deux questions, une sur la droite et ensuite nous irons vers la gauche. Oui, passez le micro, s'il vous plaît.
Guy Oloum et RTNC2 Développement. Monsieur Pascal Villeneuve, puisque vous parlez de la journée mondiale de l'eau, quelle est la position de l'UNICEF face à la demande du Tchad à la RDC de dévier une partie du fleuve Congo pour irriguer le Tchad qui souffrirait de la sécheresse? Au cas où le projet aboutirait, quand sera-t-il de famille de Sud-Bangui? Serait-il délocalisé? Merci beaucoup.
Merci. Oui, M. Villeneuve, vous avez la parole, oui.
Non, c'est pas la peine. C'est déjà très bien, merci beaucoup. Écoutez, je pense que notre position sur cette question, c'est relativement, simple. C'est de. Je pense que nous exhortons les parties concernés, les deux pays concernés, à éviter que toute décision porte atteinte à l'accès à l'eau pour les communautés congolaises concernées. La question de, vous savez, l'eau, c'est vraiment ce qu'on appelle un bien public global, un bien public mondial. C'est-à-dire que l'eau ne, comme vous le savez, l'eau ne respecte pas forcément les frontières. Et il se trouve que dans un certain nombre de parties du globe, l'eau, denrée ô combien précieuse, soit le sujet de tensions politiques entre partis, entre pays qui revendiquent son exploitation. Et ça peut, dans un certain nombre de cas, être effectivement une source de tensions politiques. Notre objectif, notre position, c'est évidemment d'exhorter les parties concernées à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord pour une gestion équitable et durable de cette ressource ô combien précieuse. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'organisations régionales qui existent pour justement exploiter en commun ces ressources, cette ressource ô combien précieuse. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à votre question.
Merci. Nous restons ici à Kinshasa pour une deuxième question. Au fond, là-bas, donnez-lui le micro. Saint-Forien.
Merci pour la parole, Saint-Forien Katumba. Je fais une préoccupation à M. le représentant Pascal de l'UNICEF. Vous venez d'énumérer plusieurs symptômes liés à l'eau malsain qui conduit à la mort précoce. Est-ce que votre appui du programme avec, en partenariat avec le gouvernement congolais reste un projet à long terme ou à court terme? Et en outre, vous demandez à la presse, comment est-ce que l'État de la presse peut vous rendre service concernant ce programme? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le projet que le programme en fait dont, que j'ai mentionné, le programme national village et école assainie, a commencé en 2008 et donc ça n'est pas depuis hier effectivement et il va se poursuivre encore pour quelques années et nous espérons d'ailleurs que il continue à s'étendre même si le programme a déjà atteint une population importante, presque 3 millions d'habitants. Évidemment, on est encore loin de, le programme est encore loin de couvrir tous les besoins du Congo. Donc, c'est un programme en expansion. C'est un programme qui s'enrichit de l'expérience tirée de sa mise en œuvre au cours des dernières années. Donc, au cours de la deuxième phase, par exemple, un effort particulier est porté sur la pérennisation des acquis, puisque le statut de village assaini n'est pas un statut définitif. Il est remis en question périodiquement si, effectivement, le village concerné ne remplit plus les conditions. Donc, c'est un statut qui n'est pas acquis éternellement, il peut être remis en cause et l'un des objectifs du programme dans sa deuxième phase, c'est de pouvoir faire en sorte que les acquis soient pérennes, soient durables. Et cela, c'est très important, au-delà également du passage à échelle du programme. Les médias, les journalistes ont un rôle évidemment très important à jouer dans la propagation, dans la dissémination des messages qui font la promotion de pratiques familiales favorables cette question de l'eau et de l'assainissement. Vous savez que, par exemple, il existe une technique très simple permettant aux enfants souffrant de diarrhée d'être réhydratés. Il s'agit de prendre
un litre, une bouteille d'eau, de mettre de l'eau potable dedans, d'y ajouter un peu de sel et de sucre, et vous avez une solution salée sucrée qui est une solution quasiment miracle pour éviter que l'enfant meure de déshydratation. Voilà, donc je pense que c'est les médias, les journalistes ont un rôle très, très important à jouer pour sensibiliser les populations à ces pratiques très, très simples. Merci, nous allons tout de suite à Goma retrouver nos collègues pour deux autres questions. Je rappelle que le Bureau conjoint des droits de l'homme aussi est présent à cette conférence de presse et je pense que M. José Maria se fera un plaisir de répondre à vos préoccupations. Goma, vous avez deux questions. Très rapidement, s'il vous plaît.
Ok, moi c'est Patrick Félix Abelli. Monsieur Pascal Villeneuve, comment vous évaluez les projets écoles et villages assainis depuis que ces projets existent en République démocratique du Congo? J'ai une triste mémoire par rapport à l'évolution de ces projets. Par exemple, dans des localités comme Malembankoulou, Manono ou encore Kabalo, où les gens vous consomment pas mal une eau qui est en tout cas très salée, et que par ces projets qui prônent bien la promotion de la santé, que la santé est entre les mains, la santé qui n'est pas du moins garantie de ce côté-là. Comment vous réagissez? Comment évaluez-vous ces projets? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Ce programme a fait l'objet déjà de plusieurs évaluations. Il y aura encore une évaluation, il est prévu d'ailleurs une autre évaluation dans les mois qui viennent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vrai que dans certains cas, certains villages qui, au bout de, d'une séquence d'activités, leur ayant permis de devenir certifié assaini. Alors le caractère assaini, il y a des critères très stricts qui sont appliqués à la délivrance de ce statut. Il est vrai que dans certains cas, ces villages qui avaient été certifiés assaini ont en fait perdu leur statut. Pour des raisons qui sont celles que vous avez mentionnées tout à l'heure. C'est pour cela, comme je l'indiquais également tout à l'heure, que dans sa deuxième phase, alors je voudrais d'abord dire qu'évidemment il ne s'agit pas d'une majorité de villages, hein, il s'agit d'une proportion qui reste faible de villages, mais que dans sa deuxième phase, le programme donc vise à assurer un suivi régulier pour assurer que la grande majorité de ces villages conservent leur certification de village assaini. Voilà.
Oui, merci. Donc, une deuxième question à partir de Goma.
Ok, merci. Je suis Baron Koï, je suis un journaliste indépendant et je publie sur congoreport.com. Monsieur Pascal, je voudrais savoir, à l'aube du deuxième phase du programme Village et École assainie, aujourd'hui, quelles sont les statistiques relatives aux décès causés par les maladies hydriques, bien sûr au niveau des villages bénéficiaires? Merci.
Merci pour cette question. Je n'ai pas de statistiques précises à vous donner maintenant, mais nous pourrons vous en donner par la suite. Je pense que si on peut garder votre contact, je reviendrai vers vous avec des statistiques très précises. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que justement, à l'issue des évaluations qui ont été faites à la fin de la première phase, il a été démontré que l'incidence des maladies diarrhéiques et donc la mortalité liée à ces maladies d'origine diarrhéique dans les villages certifiés assainis a baissé de façon très significative. Je l'ai observé d'ailleurs moi-même lors d'un déplacement que j'avais fait sur l'île d'Ijoui il y a presque un an, où l'on a constaté que dans un de ces villages, effectivement, l'infirmier nous présentait un graphique qui montrait une diminution très importante
du nombre de consultations liées à des maladies d'origine hydrique, donc liées à l'absence d'accès à l'eau potable.
Oui, merci. Donc, retour ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions. Oui, une question sur la gauche. Au moins on oui. a une dame.
C'est sur le moi, non ?
Mais justement.
Sonia Rollet de RFI. Donc, c'est par rapport à l'évolution, donc les tendances pour le mois de février. On a parlé d'une baisse pour les violations des droits de l'homme en général, mais qu'en est-il pour les violations des droits de l'homme à caractère politique ? Et que sont devenus les 18 de la Lucha qui ont été arrêtés hier ? Est-ce qu'on sait où en est la procédure ?
Oui, José Maria.
Merci beaucoup pour la question. Comme on a déjà rapporté, les mois de janvier et de février, on a enregistré une hausse très préoccupante des violations des droits de l'homme, des restrictions de liberté politique, surtout dans les centres urbains du pays, où se concentrent les activités de l'opposition, de la société civile et des médias indépendants. Et c'est pour ça que le Conseil de sécurité nous a donné un mandat pour enregistrer, rapporter ces violations, parce que ça aura un impact direct sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir. C'était le secrétaire général quand il était ici à Kinshasa le mois passé, aussi l'assistant secrétaire général adjoint Simonovic, qui a répété les mêmes points. Il n'y aura pas des élections crédibles ou des démocraties sans respect des droits de l'homme pour tout. Et ça nous préoccupe parce que les libertés publiques sont consacrées dans la constitution congolaise. Par rapport à la question de lucha, il faut faire la précision qu'on parle beaucoup de droits de manifestation pacifique et de réunion. Notre interprétation en relation avec les conventions internationales des droits civils et politiques et aussi la déclaration des défenseurs des droits de l'homme des Nations Unies, c'est que ces libertés s'appliquent aux individus, pas seulement aux organisations. Et c'est pour ça qu'on parle de la restriction de l'espace politique. Vous avez posé la question du dossier de lucha, si on fait le suivi. Oui, notre équipe a parlé avec les détenus hier, ils sont en contact avec les détenus hier soir au bureau du procureur. Et jusqu'à ce que je sais, à ce moment, ils sont en train d'être transférés au parquet de Goma. Mais comme je dis, la restriction des libertés individuelles, c'est très préoccupant et ça va avoir un impact direct dans la qualité de la démocratie et des élections. Et c'est pour ça qu'on continue à faire le plaidoyer, à demander un changement radical à la tendance de répression des libertés publiques.
Oui, merci beaucoup à José Maria pour cette réponse. Juste pour ajouter que, parce qu'il a mentionné tout à l'heure la visite du secrétaire général des Nations Unies, qui au cours de son passage ici à Kinshasa avait clairement indiqué que les droits de l'homme doivent être respectés à tout moment, qu'il était également important que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de se rassembler, que toutes ces libertés doivent être respectées pour permettre un espace politique dynamique. Donc merci beaucoup à José Maria. Nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, à droite là.
Oui. Merci. Kieré Maï de l'Agence congolaise de presse. Je voudrais poser une question au colonel Kodjo. Quelle est au jour d'aujourd'hui la situation dans le territoire de Kirumba, au nord-ouest de Goma, où les Maïmaï Nyatura auraient chassé tous les villageois et se seraient emparés de tous les territoires?
Oui, mon colonel, vous avez la parole.
Et tout à l'heure, dans le texte que j'ai présenté, il y a une coalition de Maïmaï Nyatura, FDRR et de l'APCRS contre les autres groupes Maïmaï. Vous savez, les FADC mènent depuis plusieurs mois des opérations dans tous les territoires. Et c'est ce qui oblige ces différents groupes armés à quitter leurs anciennes positions pour s'emparer d'autres localités. Et l'affrontement entre ces différentes coalitions, dont je viens de citer tout à l'heure, fait que les populations n'arrivent plus à rester dans leur village, ils sont obligés de se déplacer vers d'autres localités. Toutefois, la force de la MONUSCO en appui au FADC continue toujours des patrouilles intensives pour pouvoir contrecarrer les activités négatives de ces groupes armés et protéger les populations civiles dans ce territoire. Merci.
Merci. Nous restons ainsi à Goma pour prendre deux autres questions.
Moi, c'est Brigitte Makuta, RTVS 1 Goma. Depuis un temps, différentes visites de d'autres s'est fait remarquer au pays, et plus précisément à l'Est. Pensez-vous que l'Est de la RDC a besoin de messages de la paix ou concrètement a besoin d'une paix? Merci.
Oui, merci. Mais la question est adressée à qui?
Précisément, c'est la visite du secrétaire général des Nations Unies et du vice-président de Eric Goyen qui est ici. Présentement, il fait à peine d'atterrir à Goma. Merci.
Oui, donc vous n'avez pas répondu à ma question, mais je vais essayer de répondre à la vôtre. D'abord, il faudra inscrire la visite du secrétaire général des Nations Unies dans un calendrier beaucoup plus global. Il s'est rendu à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement à Kichanga, pour se rendre compte de visu des conditions de vie des réfugiés qui sont à Kichanga, et ce aussi en prévision du sommet mondial sur l'humanitaire qui doit se tenir à Istanbul très bientôt. Et aussi, c'est une façon pour lui de marquer son intérêt pour cette partie de la République démocratique du Congo où, comme vous le savez, nous observons beaucoup de violations des droits de l'homme, nous observons aussi beaucoup de violences. Et Monsieur le secrétaire général a pu, comme il a dit, à l'issue de cette visite, exprimer toute son émotion face aux conditions difficiles de vie de ces réfugiés. Nous avons aussi la visite du vice-président de l'Uruguay aujourd'hui à l'Est. Mais vous savez, l'Est a toujours été un point d'intérêt pour tout le monde, pour le monde entier, parce que quand on regarde le rythme de visites qui sont observé dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous sommes confiants en ce que les problèmes de l'Est sont pris en compte par différentes personnalités et différentes organisations. Donc l'Est a besoin de paix, la République démocratique du Congo a besoin de paix, mais surtout les populations ne cessent de crier haut et fort leur besoin de paix pour pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus, des activités liées au développement, parce qu'aujourd'hui, c'est vers cela que nous inscrivons. Récemment, il y a eu ici à Kinshasa aussi la conférence sur les investissements. Donc c'est pour vous dire qu'un pont est lancé entre la sécurisation des populations civiles et les activités de développement et d'investissement à mener dans le futur. Merci. Donc nous prenons une deuxième question là-bas à Goma. Oui, Goma, un peu plus vite, s'il vous plaît.
C'est Charles Kipingani. Pour le compte du journal Le Gouvernance Plus, magazine Congo Central. Je m'en vais à M. Pascal Villeneuve, qui a parlé du taux des 80% des populations urbaines qui ont accès à l'eau potable. Je voulais poser la question de là où vous tirez toutes ces données, parce que moi, à ce que je sache, Matadi, la ville portière, siège du journal, la population conjugue jusqu'à ce jour, en dépit du projet réalisé par sous un pétro financé par la Banque mondiale, conjugue toujours les trois verbes, traditionnels verbes, monter, descendre, transpirer pour chercher l'eau potable. Alors je ne sais pas, là vous avez tiré toutes ces données pour que vous nous parliez des 80%. Et aussi, tout en restant dans la province du Congo central, dans la cité de Pâques, où on a une cité en pleine expansion, et la cité côtière de Luanda, capitale du pétrole du Congo central, 80% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Cette population vit de l'eau des puits. Je ne sais pas. En dehors de la cité de Patou, il y a la cité de Mwanda et puis toutes les villes.
Posez votre question, s'il vous plaît, monsieur.
Même Gabon, où, justement, j'aimerais que je voulais donner tous ces détails pour que M. Pascal se rende compte que le pourcentage qu'il nous a donné peut être mis en doute. Et je voulais savoir là d'où on tire toutes ces données pour que vous nous donniez le pourcentage de 30% de la population est rurale. Et 80% de la population.
Merci, merci. Nous avons compris votre question. Merci, nous avons compris votre question. Avant de passer la parole à Monsieur Pascal Villeneuve, nous allons rendre l'antenne à Radio Okapi, mais nous poursuivons cette conférence de presse pour encore 15 minutes parce que nous avons deux invités de marque aujourd'hui et je voudrais que toutes vos préoccupations leur soient soumises. Oui, Monsieur Villeneuve, vous avez la parole, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. C'est une question importante. Quelles sont les données qui sont utilisées pour mesurer cette question de l'accès à l'eau potable? Ce sont des données qui proviennent pour l'essentiel d'enquêtes qui sont menées auprès des ménages. Il y a deux enquêtes principales qui sont utilisées pour cela. L'une s'appelle l'enquête à indicateurs multiples, en anglais mix, et l'autre c'est l'enquête démographique et de santé. Ces deux enquêtes se succèdent, disons, en RDC, à un rythme d'une enquête à peu près tous les trois ans. La dernière enquête démographique et de santé a eu lieu il y a quatre ans. Le rapport a été produit il y a trois ans. Et une enquête à indicateurs multiples est prévue pour être menée en début d'année prochaine. Et donc, la maîtrise d'œuvre de cette enquête, c'est le ministère du Plan qui en a la maîtrise. C'est une enquête qui dispose d'appuis financiers, notamment de la part de l'UNICEF. Alors, ce sont des enquêtes qui sont faites sur la base d'échantillons calculé pour que les estimations soient représentatives au niveau national et au niveau provincial. Et selon une segmentation qui permet de faire également des estimations en milieu urbain et en milieu rural. Il y a évidemment beaucoup de disparités, y compris d'ailleurs entre communes, entre différents types de milieux urbains. Il est tout à fait vrai que dans certaines communes, l'accès à l'eau potable est très inférieur à ce qu'il peut l'être dans d'autres communes, ce qui explique sans doute les variations que vous avez notées. Je voudrais mentionner très rapidement, parce que vous avez indiqué que vous aviez l'air de douter de la qualité de l'eau qui peut être tirée d'un puits. La qualité de l'eau tirée d'un puits peut être excellente. Tout dépend des conditions dans lesquelles le forage a été fait et aussi de l'accès immédiat du puits. Si l'accès immédiat est souillé, évidemment l'eau qui est tirée du puits peut être également souillée. Donc d'où encore une fois la nécessité d'impliquer les communautés dans la gestion durable de cette ressource ô combien précieuse qu'est l'eau.
Oui, merci. Donc nous revenons pour prendre deux questions à Kinshasa. Oui, passez le micro là à droite.
Merci, c'est Venant Vaudissa pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Monsieur José Maria, je m'adresse à vous. Chaque fois que vous présentez les tendances mensuelles observées, la réaction du gouvernement ne se fait pas attendre. Cependant, vous avez toujours soutenu que ces rapports, vous les publiez en concertation avec le gouvernement. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui expliquerait, la réaction du gouvernement si réellement vous étiez en concertation. C'est vrai que par moments, vous avez raison, mais est-ce que ça fait l'objet de concertations entre vous et le gouvernement? 80% d'eau.
Une question, s'il vous plaît. Oui. Remettez le micro, s'il vous plaît. Oui, monsieur José Maria.
Je pense que c'était la dernière fois ou l'autre qu'on a parlé un peu de ça. On fait son travail. Il y a un travail qu'on fait en privé. Il y a beaucoup des activités qu'on fait ensemble, comme par exemple les enquêtes qu'on poursuit ensemble, par exemple, ou quand il y a des informations qu'on partage de manière confidentielle et qu'on donne l'opportunité toujours au gouvernement de prendre la première action et réaction à l'information. Mais aussi, il y a de l'autre côté, il y a des réactions publiques qui, je pense, que c'est une partie de travail qu'on fait. Je ne peux pas remplacer les ministres porte-parole du gouvernement, mais à la déclaration la semaine passée, je pense que le ministre Mende a dit très clairement à tout que le bureau conjoint des droits de l'homme, c'était le partenaire privilégié du gouvernement, même s'il n'est pas ou n'était pas tout le monde d'accord avec quand il y a des criticismes ou des informations dans les rapports. Mais ça, c'est le travail qu'on fait, on fait ensemble. Et nous sommes ici pour renforcer les capacités du gouvernement pour faire face aux défis en matière des droits de l'homme.
Merci. Une deuxième question. Oui, passez le micro.
Okay, merci. Théodore Ngandou, au compte de Télé7. Ma question s'adresse à monsieur le porte-parole. Notre pays est un pays francophone. Vous le savez, le 20 mars, nous célébrons la Journée internationale de la francophonie. J'aimerais savoir la place qu'occupe la langue française aux Nations Unies. Quand on sait que chaque fois que vous lancez peut-être les recrutements des agents, vous mettez l'accent sur l'anglais, la maîtrise de l'anglais comme condition sine qua non pour être retenu. Alors, quelle place occupe la langue française aux Nations Unies?
Merci. Je pense que il faut considérer une égalité des langues au sein du système des Nations Unies. Il y a plusieurs langues qui sont parlées au sein du système des Nations Unies. Il y a plusieurs langues de travail. Je tiens tout simplement à vous préciser, en prenant le cas de la République démocratique du Congo, qui est un pays francophone, qui est un pays membre du système des Nations Unies, et qui, en son sein, regorge de beaucoup de francophones, car les critères de recrutement au niveau des Nations Unies ne sont pas essentiellement basés sur la langue. Il y a des compétences qui sont aussi requises pour pouvoir être recrutés au sein des Nations Unies. Donc nous ne sommes pas dans un conflit linguistique au sein des Nations Unies. Au cours de nos réunions, les gens s'expriment aussi bien en français qu'en anglais, donc je pense que la question ne se pose pas réellement à ce niveau. C'est plutôt une question de compétence, et je pense que, à titre de conseil, aujourd'hui nous sommes dans un monde où il est toujours très important d'apprendre plusieurs langues, juste pour pouvoir faire communiquer avec tout le monde. Voilà, merci. Donc je prends une autre question à Kinshasa. Au fond, là-bas, donnez le micro.
Merci, c'est M. Alain pour l'agence des presse Chine Nouvelle. Monsieur Bass, moi je reviens sur les propos du directeur de l'information publique sur la radio France Internationale. Il a fait mention d'une audition d'au moins 30 quelques militaires sud-africains dans l'est du pays concernant des abus sexuels, des choses comme ça. Moi, je voudrais avoir plus de détails. Est-ce que c'est la MONUSCO qui a initié l'audition ou bien c'est le gouvernement sud-africain qui est propriétaire de ces militaires ici en RDC? Et le contexte, dans quel contexte ils sont auditionnés? Merci.
Oui, merci. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons reçu la visite d'une équipe de magistrats sud-africains qui se sont rendus en République démocratique du Congo pour juger 32 ressortissants sud-africains, les juger ici, en République démocratique du Congo, mais particulièrement dont 7 concernaient la province du Nord Kivu. Il faudra tout simplement retenir que cette procédure, ou en tout cas toute cette activité judiciaire que nous avons observée, est une initiative purement sud-africaine, bien sûr avec l'accord des Nations Unies qui ont, dans un cadre très formel, demandé quand même aux pays contributeurs de troupes de veiller à ce que l'impunité ne puisse pas perdurer au sein des Nations Unies. Donc c'est dans ce cadre-là que les Sud-Africains ont décidé de venir ici pour juger les gens. Parce qu'il faut tenir compte d'une chose, les victimes ne sont pas en République sud-africaine. Et je pense que cette initiative est très heureuse et qu'elle devrait faire des émules au sein des autres pays contributeurs de troupes qui permettent non seulement de juger les auteurs d'allégations ici, là où, si vous voulez, l'infraction a été commise, mais aussi ça permet aux victimes de pouvoir avoir un procès équitable, parce que, imaginez-vous, déplacer les victimes d'ici en Afrique du Sud dans un environnement inconnu, etc., je pense que tout ceci est mis en œuvre pour que les justiciables puissent quand même avoir un droit à préserver, en tout cas dans le cadre de ces enquêtes-là. Et nous pouvons dire que la MONUSCO, dans le cadre bien précis, a apporté tout son concours, tout son soutien aux autorités sud-africaines pour que ces procès puissent se tenir en République démocratique du Congo. Merci. Donc, je prends une dernière question à Goma.
Merci Félix Senorbert Mouindoula pour les comptes du journal L'Émergence. Moi j'ai rejoint les amis qui ont posé cette question à Kinshasa. Deux casques bleus étaient à la barre de la cour martiale sud-africaine ici à Goma. Et ils sont accusés pour l'exploitation sexuelle sur une fille dans un bar plutôt de la place. Le témoin qui ont défilé sur là-bas, ils ont dit que c'était justement un scénario monté de toutes pièces et que la suite de ces procès ne sera pas favorable. Est-ce que vous avez une assurance pour éclairer ces témoins congolais qui ont défilé et qui n'ont pas crié justement à ces procès? Je vous remercie.
Je n'ai pas la prétention de commenter un procès et encore moins me mettre à la place de ces fameux témoins. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est-à-dire qu'au-delà de votre attention qui est focalisée sur les abus sexuels, de toute façon les abus sexuels, vous savez que nous avons une politique de tolérance zéro et d'impunité zéro. Donc, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies l'a encore martelé, réaffirmé récemment avec un certain nombre de mesures, 40 initiatives qu'il aurait déposées, et il voudrait que les pays contributeurs prennent leurs responsabilités et que les auteurs de ces allégations puissent répondre de leurs actes. Maintenant, ce procès, je pense que dans un premier temps, le cas d'allégation de violence sexuelle ou d'abus sexuel qui a été relevé dans votre intervention, je pense que ce cas-là n'a pas été retenu par la Cour durant ce procès-là. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Comme vous, nous constatons les décisions qui ont été prises par les juges et magistrats sud-africains au cours de ce procès. Mais je pense que ce qu'il faudra surtout retenir, c'est d'abord cette bonne initiative. Deuxièmement, cette volonté à vouloir rendre un procès équitable, mais aussi rapide aux victimes. Mais aussi, le troisième point, c'est pouvoir interpeller les gens qui puissent répondre de leurs actes, que les responsabilités soient clairement définies et que les sanctions idoines soient prononcées à l'encontre de tous ces gens qui sont accusés. Donc, mais je pense que le procès permet de manière claire de définir de manière complètement transparente les responsabilités, et c'est ce qui a été fait, et je pense que beaucoup d'autres pays contributeurs de troubles suivront cette voie-là pour que les victimes puissent avoir un procès in situ et que la justice puisse prévaloir en tout temps. Donc c'est sur cette note-là que je mets un terme à cette conférence de presse. Merci de votre disponibilité, mais aussi merci d'avoir été avec nous pendant ces 45 minutes. Au revoir et à mercredi prochain.